l'occasion de voir, hein, c'est un peu comme certains sujets qu'il me propose, mais c'est aussi l'occasion, avec vous, de revoir nos fondamentaux. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Et si je n'ai pas tapé cette conférence, c'est parce que tout simplement, c'est le fruit de mes réflexions. Ça permet une espèce d'intervenimento de nos pensées. Et vous verrez que ce soir, on va largement sortir du mythe, on va largement déborder de la fameuse histoire sainte. Bon, allez, il y a des problèmes juste plus contemporains. Enfin, je vais vous emmener sur un terrain très vaste. On va passer de l'image de Moïse dans nos imaginaires, l'imaginaire juif, l'imaginaire chrétien, musulman, grec, l'imaginaire même de l'homme contemporain. Ensuite, on fera très rapidement, parce que c'est une histoire que vous connaissez par cœur, le script, le scénario un petit peu biblique, un peu de la vie de Moïse. Je précise ça d'une critique quand même, parce que c'est intéressant de se poser des questions contemporaines sur l'historicité de ce texte, qui pose en même temps le problème de l'historicité de l'écriture de la Bible, à quel moment ça a été écrit, et pourquoi, à la lecture de l'histoire de Moïse, beaucoup de ces problématiques, de ces synthèses, de ce texte oral d'abord et ensuite écrit, apparaissent de façon tout à fait évidente, ne serait-ce pas que par le fait que pendant très très longtemps, les rabbins ont occulté l'image de Moïse. Pourquoi l'ont-ils fait? Pourquoi on ne retrouve jamais le nom de Moïse dans la Haggadah, le récit de la Pâque? C'est assez extraordinaire comme histoire policière, hein, et ça on peut le deviner, tout simplement en étudiant historiquement un peu l'origine de nos textes. Ensuite, je ferai un petit passage sur ce que j'appellerais, et ça nous concerne plus, Moïse en action. Je reproduis là une phrase de Gilles Bernheim. Bernheim définit le judaïsme comme une éthique en action. Eh bien, je vais parler de Moïse en action. Et ensuite, j'essaierai avec vous de jeter un regard contemporain sur l'image de Moïse. Comment est-ce que les philosophes contemporains, les penseurs contemporains peuvent intégrer et l'image de Moïse? Et pourquoi cette image de Moïse nous est-elle encore nécessaire? Pourquoi moi, Albert Bachelet, médecin formé aux sciences de la République, je vis entre Jésus, qui est mon petit frère, hein, celui qui m'enseigne l'amour, la tolérance, la patience, et mon grand frère, qui est Moïse, celui qui m'enseigne l'esprit de liberté, l'esprit de questionnement, l'esprit de critique, l'esprit, j'allais dire, le logos plus Dieu, hein, le questionnement, et sous l'œil de notre père, qui est Abraham, image tutélaire, celui qui fonde mon identité. Pourquoi c'est ma famille tout ça, et pourquoi ça me remue encore, pourquoi ça me concerne? Cet après-midi, en ouvrant ce bouquin que je viens d'acheter, le bouquin de Bernheim, 40 méditations juives, je tombe sur une page qui nous concerne ce soir, Deutéronome 30, 11. Car cette loi que je t'impose en ce jour, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni placée trop loin, non, la chose est toute près de toi. Tu l'as dans ta bouche et dans le cœur pour pouvoir l'observer. Moïse dans l'imaginaire juif. Jacques Attali, sans doute son petit bouquin qui est tout à fait sympathique sur le dictionnaire amoureux du judaïsme, énonce cette constatation. Il dit qu'on ne peut pas être amoureux de Moïse, car son image est trop impressionnante. Il est en même temps l'image de ceux qui l'ont précédé, la synthèse de tous les prophètes. Comme Caïn, il est marqué du signe de Dieu. Comme Abraham, il reçoit mission de celui-ci. Comme Noé, il est sauvé des eaux et fait une alliance irrévocable avec Dieu. Comme Joseph, il devient prince d'Égypte, comme aucun autre, il parle face à face avec Dieu. Et dans ce texte, tout à fait limpide et inspirant, on devine tout à fait que Moïse est comme un double de Dieu. C'est un partenaire, c'est l'auteur de la Torah. Le nom de Moïse, Moshe, quand vous le lisez à l'envers, c'est Hachem, hein, c'est le nom de Dieu, le nom. Ça, c'est intéressant. Et ce nom de Dieu est aussi le cinquième mot de la Bible. Donc signature, selon la Kabbale, les kabbalistiques disent que c'est la signature de Moïse, de l'auteur de ce livre. Les rabbins parlent de Moïse comme Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Moshe, notre rabbin, notre maître. Et dans les 13 articles de foi de Maïmonide, j'en parlais avec Samuel tout à l'heure, parce qu'il posait une question sur laquelle on reviendra, qui est celle de la résurrection. On en a déjà beaucoup parlé hier soir parce qu'on a fait une soirée sur Ézéchiel, donc très intéressant de parler de ça. Donc le 13e article de Maïmonide concerne la résurrection, mais au centre de ces 13 articles, il y a cette phrase, « Le Kam de Israël que Moshe od, Navi umabit et temunato, Torah temet natan le amo el aliad neviot ne'eman veto. » Et ça veut dire jamais prophète ne s'éleva en Israël qui, pareil à Moïse, put contempler sa face.
Dieu a donné à son peuple une loi de vérité par son prophète, le fidèle de sa maison. La Bible, donc, va mettre en scène une galaxie de grands hommes, de grandes femmes, de femmes célèbres, qui tous apportent une contribution à la destinée juive. Mais l'image de Moïse les domine tous. On ne peut le comparer à aucun. C'est un leader national qui façonne le peuple d'Israël, qui fait d'une horde d'esclaves un peuple de prêtres qui est dépositaire d'un trésor. Il est non seulement prophète, mais le père de tous les prophètes. Il inspire à ceux qui prêcheront plus tard les idéaux mosaïques, le courage mosaïque, leur enseigne une loi de justice, d'amour, de pureté, un code éthique, comme le dit très bellement Marc-Alain Wachlin, code éthique original qui est doublé d'un code social, de règles et de pratiques pour la vie courante. Et je terminerai sans doute cette soirée avec cela, son destin profondément humain, en fait non seulement ce que les Grecs appelaient Théo Amer, un homme de Dieu, mais aussi, et c'est le plus estimable à mes yeux, un être vulnérable, un être faillible et douloureux. Les sources, on verra tout à l'heure, de sa vie sont essentiellement bibliques. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, mais aussi Josué, Juge, Samuel 1 et 2, Roi, Isaïe, Michée, Hoshéa, Malachi, les Psaumes, Daniel, Ezra, Néhémie et les Chroniques. Donc, avant d'envisager le parcours mythique de cette histoire de Moïse dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va parler un peu de la place de Moïse dans l'imaginaire gréco-romain, dans celui des chrétiens, celui des musulmans. Les Grecs, très tôt, vont identifier les personnages de la Bible à leur propre panthéon. Isis, c'est Ève. Sérapis, c'est Joseph. Atlas, c'est Enoch. Chronos, c'est Nemrod. Orphée, c'est le roi David. Mousaios, le père des muses, c'est Moïse. Zoroastre, c'est Ézéchiel. On a deux versions contrastées de l'image de Moïse chez les Grecs, selon la période historique de conflit ou non avec la tradition juive. Pour des personnes comme Eupolimus, Eusebius, Antoporus, Homère, Hésiode, Philon. Moïse est un juste, il est inventeur d'une civilisation, il est intelligent, il est avisé, compilateur, philosophe, et il fonde un État. À l'opposé, selon donc Reinach, qui est un savoyard Théodore qui a beaucoup écrit sur les antiquités juives, et Catius, ici c'est Catius qui prétend que Moïse favorise la haine des autres, la séparation des autres. Pour l'Isomaque, c'est un prêtre rebelle qui penche du côté des Hyksos et qui prêche la haine de l'Égypte ancienne. Pour Apollonius, c'est un charlatan, un imposteur, un magicien. Cette image de Moïse magicien traverse un peu la philosophie grecque. Posidonius raconte que Antiochos Epiphanes, le tyran de Syrie, l'a décrit, l'a vu en statuaire, barbu, portant un lyre et chevauchant un âne. Et de façon très ironique, Nicocas va l'appeler Alpha. Vous savez qu'on appelle Alpha les membres de l'Académie d'Alexandrie, donc par dérision. Il l'appelle Alpha, mais plutôt pour lui c'est Alphos, c'est la lettre. Pour lui c'est la lettre de la pensée humaine. Vous voyez, attitude chez les Grecs quand même très contrastée vis-à-vis de notre cher Moïse. Pour les chrétiens, c'est pour vous tous, c'est l'image majestueuse du Moïse de Michel-Ange. Celle de Pisano, le Donatello aux campagnes de Florence, et pour ceux d'entre vous qui connaissent la Bourgogne, c'est le puits de Moïse à la chartreuse de Champmol. On voit son visage sévère, son visage étonnant, on voit ce Moïse cornu, hein, sans qu'on sache très bien s'il y a une malignité dans le fait de lui mettre des cornes, ou s'il représente des rayons irradiés par sa pensée extraordinaire. Moi, je penche plutôt pour la deuxième hypothèse, parce que ça me rappelle beaucoup le chignon du Bouddha, vous savez, cette volonté pour le statuaire de représenter un prophète avec une ligne directe avec le ciel. Donc il est évoqué très fréquemment dans les évangiles, mais il est évoqué toujours par comparaison à Jésus. Donc il va préfigurer l'image de libérateur du peuple, créateur d'une nouvelle alliance, un exemple de foi profonde en Dieu, et qui est en but, comme Jésus, à l'hostilité de son peuple et à l'hostilité des puissants. Mais pour les chrétiens, le Christ surpasse Moïse dans la spiritualité, l'esprit de sacrifice, le dévouement, et il s'identifie parfaitement, pour eux, pour vous, à l'agneau pascal lors de la dixième plaie. Vous savez que nous divergeons beaucoup sur le sens de l'agneau pascal. Pour les musulmans, il a une place assez gigantesque, puisqu'il est cité entre 100 et 150 fois dans le Coran et dans la littérature poétique. Vous savez comme moi que les personnages de la Bible sont des personnages du panthéon musulman. Noé, c'est Nour. Moïse, c'est Moussa. Abraham, c'est Ibrahim, et ils sont considérés par les musulmans comme les premiers croyants. La Haggadah de Pâques, le récit de la sortie d'Égypte, est cité intégralement dans le Coran. Et les parents de Moïse, Amram devient Imram pour les musulmans, sa mère Jochebed devient Jochabit pour les musulmans, donc ils sont cités, comme d'ailleurs son successeur Josué sera cité. La mort de Moïse est citée également in extenso, et il y a des ajouts poétiques qui sont extraordinaires. Le voyage de Moïse et de son serviteur dans la Sourate 18 allant aux extrémités du monde connu, et aussi, bien évidemment, le voyage de Moïse et de Mahomet en rêve sur le site de Jérusalem, qui fait donc de Jérusalem Al-Quds, une cité sainte pour le peuple musulman. Donc, très fortement revendiqué par les musulmans également. Dans l'imaginaire contemporain, il ne reste plus grand-chose. Hein. Vous vous souvenez qu'un petit berceau pour enfants s'appelle à Moïse, et ça, je trouve ça absolument charmant, moi qui suis pédiatre. Quand on va dans le Larousse, la foi mosaïque, la foi de Moïse, c'est le judaïsme, et à part ça, il n'y a vraiment pas grand-chose, parce que même les mosaïques qu'on trouve par terre, c'est parce qu'il n'y a pas de Moïse, hein, ça vient de Mousaios, le père des muses, hein, c'est pas autre chose. Alors heureusement qu'on a quand même une source contemporaine en termes d'évocation de Moïse, qui sont les blagues juives, vraiment, qui font très souvent appel à Moïse. Alors pour vous détendre un peu avant ce qui va suivre, il y a quelques histoires qui sont absolument célèbres, hein, c'est l'histoire de Jésus qui joue au golf au paradis avec Moïse. Alors, Moïse joue, mais il joue très très mal, parce qu'il va perdre sa balle dans les herbes. Alors Jésus joue après lui, il joue très très mal aussi, sa balle tombe au milieu de l'eau, mais comme Jésus sait marcher sur l'eau, il n'y a pas de problème. Et une troisième personne qui est là, qui joue avec eux, qui est un petit vieux que personne ne connaît, joue encore plus mal, puisque sa balle tombe sur le toit du clubhouse, elle descend dans la gouttière, là, elle descend le tuyau de la gouttière, il y a une grenouille qui l'attrape, il y a un corbeau qui prend la grenouille, qui l'emmène à l'autre bout du golf, qui la lâche, et la balle sort de la bouche de la grenouille et tombe dans le dernier trou, c'est un Miguel, en un seul coup. Et Moïse dit à Jésus, c'est la dernière fois que je joue avec ton père. Voilà, ça c'est Moïse, il y a une histoire très célèbre que m'a raconté mon père, qui se passe à Berlin en 34, il y a un balayeur juif qui siffle une chanson. Un nazi qui passe, il dit, mais sale juif, tu siffles contre le Führer. Il dit, non, dit le juif, je siffle contre Moïse. Et pourquoi tu siffles contre Moïse? Parce que s'il nous avait laissé en défi, je serais citoyen britannique actuellement. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'histoires qui concernent Moïse dans l'imaginaire contemporain, et à mon avis, ce n'est pas la seule source d'inspiration dans son théologique. Alors concernant j'allais dire ce que j'appelle le script, le scénario hollywoodien de Moïse, vous le suivez parfaitement dans la Bible. Un petit rappel extrêmement rapide. Vous savez qu'il est né dans la tribu de Lévi. Son père s'appelle Amram, sa mère s'appelle Jochebed. Il faut vite passer dessus parce qu'on n'en parle plus de ces personnages. Il a un frère aîné qui s'appelle Aaron et une sœur qui s'appelle Myriam. Il est né au plus fort de la persécution des Juifs. Vous savez qu'ils sont très nombreux à cette époque-là sur la terre d'Égypte. Et le pharaon qui n'a pas connu Joseph, alors quand on parlera de la critique historique, on reviendra un peu sur la nature de ces pharaons. Ce pharaon qui veut détruire les juifs enjoint aux sages-femmes juives, Chifra et Pouar, de noyer les petits juifs, les petits garçons dans le Nil. La maman à 3 mois de Moïse de met dans une nacelle. Vous connaissez l'histoire. La Batia, la fille de Pharaon, qui a un nom superbe. Alors pour une fois, c'est un nom hébraïque. Batia, ça veut dire la fille de Dieu. Donc c'est la fille de Dieu qui va sauver Jésus, qui va sauver Moïse, qui va l'emmener à la cour du pharaon, où il va être élevé comme un prince égyptien et être féru dans toutes les sciences égyptiennes. Mais il est le prototype du juif inassimilable, puisqu'effectivement son réflexe d'adhésion au peuple juif se réveille lorsqu'il va intervenir dans une querelle en contre-maçonnerie, tuer l'Égyptien, l'enterrer, et ceci lui sera reproché par des juifs qui se battent par la suite. Donc sachant que son crime est connu, ben, il va se sauver à Midian. Il va se sauver dans un pays qui doit être situé entre, je dirais, en Arabie Saoudite actuelle ou le sud de la Jordanie. Il va sauver bien sûr la fille du prêtre de grand droit, Jéthro, qui s'appelle également Réouel. Vous savez que Jéthro, il a 7 noms hein, dans la Bible. Hein. Ce prêtre qui est assez important, qui est cité souvent. Et vous savez pourquoi on dit qu'il a sept noms, hein, c'est une histoire juive new-yorkaise. On dit que lorsqu'il a marié sa fille, parce qu'il va la marier avec Moïse, ça lui a coûté tellement cher qu'il a fait faillite. Or, pour remonter une affaire, il faut avoir un autre nom. Donc les juifs new-yorkais disent que si j'ai trop à sept noms, c'est qu'il avait sept filles à marier et qu'il a fait sept fois faillite. Donc, il va épouser la fille de Yitro, il va de Reuel, il va, qui s'appelle Tsipora. Ça veut dire petit oiseau, hein. Très mal traduit par Sephora, mais Tsipora, c'est très beau. Il va avoir deux fils, un Gershom et Eliezer, donc là encore toute histoire juive va ignorer l'histoire. Hein. Personne ne sait ce que sont devenus Gershom et Eliezer. Et là, la première théophanie, Dieu lui parle, c'est la fameuse histoire du buisson ardent, qui est une très très belle métaphore du peuple juif, ce peuple qui brûle au long des siècles sans jamais se consumer, qui brûle de cette flamme qui est tout simplement l'inspiration divine. Il reçoit mission de sauver les juifs, quatre fois il refuse, Dieu enfin se révèle à lui, il lui dit à lui seul, parce qu'avant il ne le disait pas, je suis le tétragramme, en fait on traduit maintenant par je suis qui je serai, et il lui donne des signes pour se faire reconnaître et respecter par les magiciens égyptiens, et surtout il lui donne son frère pour l'aider, parce que manifestement, Moïse n'arrive absolument pas à se défaire de son humilité, de sa modestie et de son bégaiement. Et c'est le retour en Égypte où il a essayé, malheureusement auprès de Pharaon, de faire sortir son peuple d'Égypte. Deuxième révélation de Dieu qui lui répète, jusqu'à présent, je me suis manifesté au Père, Abraham, Isaac et Jacob, comme El Shaddai, comme Elohim, mais pour toi, je suis maintenant le nouveau, je suis le tétragramme, je suis qui je serai. Et il lui donne cette mission de rédemption du peuple. Vous connaissez l'histoire suivante, les 12 plaies, ensuite l'exode des juifs dans le désert, vous connaissez la traversée de la mer rouge. Je vous rappelle, et j'y reviendrai tout à l'heure, que dans ce fameux cantique As Yashir Moshe, qu'on chante tous les Shabbats pour célébrer la sortie d'Égypte, ben, à part As Yashir Moshe, eh ben, Moshe n'est jamais cité comme le libérateur du peuple juif dans ce psaume rabbinique écrit bien longtemps après. Vous connaissez ce séjour, bien sûr, au Sinaï, l'alliance, bien sûr, manifestée par le don de la Torah, qui manifeste bien que l'Exode n'a pas simplement comme but de sauver un peuple, de casser la servitude, mais il y a un caractère de rédemption, un caractère d'incarnation de la parole divine, et en fin de compte, l'invention d'un monothéisme éthique porté par un peuple pour toute l'humanité. L'histoire du Vaudor, vous la connaissez, d'ailleurs, si vous lisez attentivement Attali, il raconte non, c'était pas un veau en or, c'était un veau en bois plaqué, puisque Moïse l'a brûlé pour le faire boire aux 3000 personnes que les Lévites ont massacrées. Moïse intercède pour ce peuple, et c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. L'essentiel de ce qui se passe au désert, c'est l'enseignement de la tradition juive à ce peuple, qui est ce peuple révolté, hein, ce peuple mécontent, ce peuple désobéissant. Tension, révolte, celle de Korah, celle pour la viande, celle même de Aaron et de Myriam qui vont critiquer la couchite turpienne, Tsipora, la femme de Moïse, et ce malheureux Moïse, il est bien évident qu'il a bien à faire, hein, parce qu'il a frappé le rocher pour tirer de la flotte, il a à combattre les rois de Sihon et de Og, il a à combattre les Amalécites, mais il institue les 70 anciens, donc les inventeurs de la démocratie, ce ne sont pas les Nordiques avec leur ring, c'est Moïse avec les 70 anciens, et c'est lui qui décide de faire de cette nation un peuple de prophètes et un peuple de prêtres. Et avant de mourir, il désigne Josué comme successeur, et vous vous souvenez de cette mort qui est assez extraordinaire, puisque monté sur la montagne Pisga, qui veut dire en hébreu sommet, la pointe, il est en face d'un patelin qui s'appelle en Canaan, d'un village qui s'appelle Bat Peor, traduit pour son nom qui traduit l'hébreu, un nom absolument magnifique, la fille de la bouche d'or, la bouche en or. Donc, encore une fois, lors de la mort de Moïse, l'évocation de son action principale, qui est celle de l'ouverture de ce peuple à la parole. Donc, il va mourir, après avoir prononcé des textes superbes, qu'on met dans sa bouche, il y a d'une part les bénédictions testamentaires, et il y a le fameux cantique de Moïse, le fameux cantique Ahazinu, qui est un cantique superbe que nous récitons à la synagogue pour les grandes fêtes. Sa tombe, bien sûr, est absolument inconnue. Et dans la lecture critique, on verra un peu ce qu'il en est. Lecture critique. Tout à l'heure, j'ai dit que les sources de la vie de Moïse, elles sont bibliques. Il n'y a pas de source historique de la vie de Moïse. Hein. Les gens qui, comme je viens en parler, qui font de Moïse un prince égyptien, diront toujours que les textes égyptiens parlent des fameux apirous, des bandits pillards du désert qui venaient embêter les malheureux égyptiens travailleurs. On parlera de la stèle de Mer Nefta avec sa bataille contre le peuple juif. Enfin, nulle part, on va parler de ce prince qui s'appelait Moïse. Le thème de l'enfant caché et retrouvé sur les eaux, caché par sa mère, c'est récurrent dans les traditions moyen-orientales. Dans la thématique d'Akkad, Sargon d'Akkad, est sauvé par sa mère, est sauvé dans les eaux. Le roi Cyrus, le grand prince, l'empereur Cyrus, qui libéra les Juifs de leur captivité à Babylone, lui-même, Hérodote raconte qu'il a été sauvé par caché de ses ennemis par sa mère, dans un berceau et sur l'eau. Horus, un des dieux de l'Égypte, se cache de Seth et sa mère le cache également. Donc c'est une thématique récurrente dans la tradition égyptienne. Et la plupart des personnages, tout à l'heure j'ai dit qu'il était tout à fait extraordinaire que la fille de Pharaon ait un magnifique nom hébraïque, mais la plupart des gens qui entourent Moïse ont des noms égyptiens. Aaron, Myriam sont des noms égyptiens. Pinchas, qui a un rôle tellement important dans le désert, est égyptien. Mourari, Ophni sont des gens des Égyptiens. Et même le mot de Moïse, les égyptologues le traduisent. Hein. Ils disent que c'était probablement issu de M, qui veut dire l'eau en langage égyptien, et Ezes, qui veut dire né d'eux, ou sauvé d'eux. Et on pense que le nom était probablement aussi celui de Ptah, Moses. Ptah est né. Donc il appartenait tout à fait au panthéon égyptien de l'époque. De la même manière, on sait maintenant, et je l'ai dit hier à notre soirée sur Ézéchiel, qu'à propos de la tradition éloïste, que Aaron apparaît dans l'histoire des textes juifs comme un prêtre de l'autel du Nord, de Dan, si vous voulez, d'une tradition tout à fait éloïste. Il n'apparaît pas dans la tradition rabbinique à travers la Bible, mais comme prêtre de la tradition éloïste. De la même manière, le voyage à Midian est un voyage qui est connu. Il y a un personnage de la mythologie égyptienne qui s'appelle Sinoué, qui fait le même voyage à Midian. Et pour les historiens contemporains, ce qui ne se passe pas sur les sources publiques, ils font effectivement une construction du peuple juif comme celui d'un peuple de nomades qui va lutter contre des pillards en faisant alliance avec les peuples de l'Arabie de l'époque, c'est-à-dire les Kénites, les tribus de Bédouines, et on sait maintenant qu'il y avait un ensemble de tribus arabes à cette époque-là qui s'appelait Shimouil. C'était une association qui a donné le mot de Ismaël, hein, comme père éponyme des Arabes du coin. Donc pour beaucoup d'historiens, c'est le peuple juif né comme un peuple nomade qui va se structurer en s'alliant avec les peuples. Donc, de la même manière, tu as cité tout à l'heure le mont Horeb. On ne sait pas très bien dans le texte biblique si c'est le Sinaï ou si c'est le mont Horeb. Je veux dire qu'il y a une espèce d'ambiguïté extraordinaire qui n'a d'équivalent que l'ambiguïté à propos du nom de Dieu. Ce nom de Dieu qui, selon les traditions, va être Elohim, va être El Shaddai ou va être le Tétragramme. Et puis, cette censure de Moïse par la littérature rabbinique, pourquoi il n'apparaît pas dans les célébrations de Pâques ? Alors que c'est le principal porteur de cette libération théologique, philosophique et matérielle du peuple juif. Pour moi, l'explication est très tout à fait réelle. Je crois que cette volonté, on y reviendra alors, de ne pas déifier Moïse, d'en faire un homme comme les autres, est tout à fait évidente. Ne pas connaître l'origine, ne pas connaître l'île de sa mère, pour éviter que ça devienne un sanctuaire, et en aucun cas le mettre à l'égal de Dieu et en faire un Dieu. Et le renvoyer à son humanité. Il y a même des penseurs juifs, tout à fait athées, il y en a, bien évidemment, qui vont dire, une comparaison qu'on peut faire de façon poétique entre la migration des juifs dans le Sinaï, c'est la navasse de Xénophon. Ça, c'est pour les hellénisants. Mais il y a même des chercheurs qui sont marxisants. Si vous lisez bien, par exemple, ceux d'entre vous qui l'ont lu, le travail de Zilberman et de Finkelstein, qui sont de cette inspiration-là, on va trouver que parallèlement à leur théorie d'une révolte chez les Cananéens qui amène la fondation de 8000 villages en Judée et en Samarie, en même temps entre la période du fer et la période du premier fer et du bronze, 8000 villages créés des nouveaux, et avec une nouvelle idéologie, une nouvelle religion, et ce que ces chercheurs pensent de la fuite d'Égypte, où ils pensent effectivement que c'est une société en rupture avec la société égyptienne, qui va aller au désert, qui va se militariser, qui va se doter d'une idéologie et d'un leader, Moïse. Donc ça, c'est la vision, il y a même une vision donc, marxisante de ce texte. Bon. Je dis tout ça pour vous titiller un petit peu l'esprit, pour vous dire qu'on n'est quand même pas très très clair sur l'historicité de Moïse. En tout état de cause, moi je crois que ça m'arrange bien qu'il n'y ait pas de source historique pour Moïse, parce que ça dépasse quand même totalement ce côté un peu mesquin de savoir si la sortie d'Égypte s'est faite dans l'hypothèse haute en moins 1500, dans l'hypothèse basse en moins 1200, si fils ou Séti premier, ou son fils Amenophis, ou Ramsès, ou son fils Nernepta, que les Juifs sont sortis. Au fond, ça n'a strictement aucun intérêt. Et ça mange plutôt qu'il n'y ait pas beaucoup de traces. Parce que la problématique qui se pose, est centrale dans la tradition juive, c'est la problématique de la mémoire et de l'histoire. Le personnage de Moïse, il intervient, il joue un rôle majeur dans l'ethnogénèse du peuple juif. Et il invente le peuple juif. Mais pas de la façon mesquine dont un auteur récent l'a évoqué dans un livre si controversé. Il fait tout simplement la synthèse des mythes fondateurs de ce peuple juif. Donc, la datation et l'historicité sont moins importants que la charge émotionnelle du récit de la sortie d'Égypte, récité génération après génération à chaque Pessah. C'est ce récit de la Haggadah dans les familles, le soir de Pessah, qui va fonder l'identité juive. Et je n'hésite pas au plaisir de citer Philippe Haddad, je crois que tu l'aimes beaucoup, et qui dit « Toute religion positive repose sur un credo et s'appuie sur une affirmation qui devient sa vérité de base. Pour le judaïsme, cette vérité ontologique, c'est la sortie d'Égypte. » Donc les historiens, ils ne peuvent pas infirmer ou confirmer l'événement exode, entre guillemets. Mais les spécialistes des mythes soulignent que il y a toujours un noyau de vérité au sein des mythes fondateurs, quelles que soient ces civilisations. Un personnage du nom de Moïse, doté d'un tel charisme, a-t-il existé? C'est pas vraiment important. Mais on reconnaît la vraie valeur de la tradition, transmise oralement, sur des dizaines de générations, compilées par la suite. Vidal Naquet, qui n'est pas un juif pratiquant, dans un texte superbe qui s'appelle Zachor, souviens-toi, parle de la confusion chez les juifs entre mémoire et histoire. Mémoire et histoire intégrées comme identité juive. Et j'aime bien citer Marc-Alain Wafflin quand il dit que il parle de l'opposition entre une lecture événementielle de l'histoire et une lecture existentielle de l'histoire. Nous faisons, nous juifs, une lecture existentielle de l'histoire. Et si je dois vous donner un peu le fruit de mes réflexions à propos de ce sujet, je dirais que nous existons sur deux triptyques. Il y a un triptyque géopolitique et un triptyque de type philosophique et religieux. Le triptyque géopolitique, c'est le triptyque sortie d'Égypte, lieu d'esclavage, c'est rédemption en tant que peuple. Libération, deuxième partie du triptyque, la sortie d'Égypte. Et le troisième triptyque, c'est la conquête. La terre, lieu de la promesse. Donc c'est sur ce triptyque géopolitique que notre tradition, notre mémoire repose. Quant au triptyque théologique, tu l'as largement évoqué tout à l'heure, il repose sur trois piliers. La révélation, l'élection et l'alliance de Dieu et le don de la Torah. Révélation, c'est la clé de voûte de tous les monothéismes. Et qui comporte également résistance et tension, qui sont nécessaires à ces oppositions dialectiques. Oppositions dialectiques dans le temps. Il y a un avant et après la révélation, dans l'espace. Il y a des terres pures et des terres impures. Il y a des terres où on peut résider et d'autres pas. Dans l'alimentation, dans le mode de vie, il y a des aliments qu'on peut manger ou ne pas manger. Dans la cognition, c'est l'apparition d'une lumière de la connaissance qui est identifiée par la révélation du nom et la révélation du logos, la révélation du texte. Donc il y a une tension dans la révélation entre deux temporalités, entre deux stades de la connaissance et entre deux identités. Il y a quand même une règle qui est fondamentale dans la révélation au sens juste du terme, c'est qu'il n'y a de révélation que par la parole. L'image, qui est une copie de la réalité, est incapable de porter la révélation. C'est une explication, à mon avis, très forte de l'aniconisme qui caractérise dès le départ la tradition juive. Deuxième pilier du critique, c'est l'élection. C'est un acte initial où Dieu rentre en relation avec un prophète et avec un peuple et dans une réalité d'un lieu. Au point que certains chercheurs vont vous dire que toute intervention divine est une élection. Le terme Bahar, hein, qui a donné le beau nom de Béar dans la tradition juive, bien que le chanteur Guy Béar récuse totalement ses origines juives, Bahar implique bien rapport à la personne, intimité avec la personne. Mais ce n'est pas une élection, comment dirais-je, qualitative, c'est une élection de charge. C'est une élection de responsabilité. C'est une élection de fidélité. Parce que la fidélité entre en jeu et créant cette discontinuité entre un peuple fidèle et un peuple infidèle. C'est une notion qui va évoluer parce que par la suite, après toutes les catastrophes qui frappent le peuple juif, bien évidemment les prophètes vont promettre la continuité de cette élection et ils vont employer des métaphores qui sont, que je citais hier soir dans mon commentaire sur Ézéchiel, qui sont la métaphore du mari et de la femme pour Dieu et le peuple juif, la métaphore du père et du fils, et la métaphore du pasteur et de son berger qui sera si largement reprise par la tradition chrétienne. L'élection confère une responsabilité et des devoirs particuliers, tout simplement pour s'affirmer en tant qu'être humain. Le troisième élément de ce pilier théologique, c'est l'alliance. On part entre critères qui sont très moyen-orientaux, hein, c'est la brique, l'alliance, elle reproduit les modèles mésopotamiens. Hein. Il y a en même temps des stipulations, des ordres, il y a en même temps des témoins qui sont là, il y a en même temps des bénédictions, puis des malédictions si on fait mal. Exactement comme tout ce qu'on a retrouvé chez les Hittites, chez les Assyriens, chez les Perses. Mais il y a aussi la promesse. Promesse de la terre, par exemple. Promesse du lieu où va se réaliser l'épopée juive et la suite, et la venue des temps futurs. Il y a également un élément de suggestion, c'est-à-dire qu'on change de maître. Cette notion dans l'alliance de changement de maître est importante. Et dans l'alliance, il y a toujours cet élément dont je parlais pour l'élection, asymétrique et conditionnel. L'alliance, au début tout au moins, elle existe si le peuple est fidèle à cette alliance. Et c'est ainsi que les Juifs diront, en ayant reçu la deuxième Torah, c'est le Nishma, on va faire, puis après on va essayer de comprendre, parce qu'ils ont tellement peur de ne plus être, comment dirais-je, dans cette alliance, qu'ils vont être absolument terrorisés. Mais, bien évidemment, là encore, avec les persécutions, avec la destruction de la terre d'Israël, ces alliances deviendront, dans la bouche des prophètes, tout à fait inconditionnelles, et on verra cette notion d'alliance se changer en plusieurs nouvelles alliances. On va voir cette alliance se moraliser par la suite, devenir un peu plus équilibrée, un peu plus symétrique. Et à l'époque des Assyriens, elle va prendre un caractère complètement eschatologique dans la venue des temps messianiques. Mais là encore, c'est une alliance dans le mot. Vous connaissez le mot hébraïque pour la circoncision, ceux d'entre vous qui sont là. Ça s'appelle la Brit Mila, c'est-à-dire l'alliance du mot. En fin de compte, nous sommes à jamais par cette alliance dans le logos, dans la parole. C'est la parole qui nous lie, c'est la parole qui nous crée, nous qui créons la parole. J'aime bien un commentaire sur l'histoire de Noé. On raconte toujours que l'arche de Noé, la Théba, qui a donné la Théba, l'armoire qui contient la Torah dans les synagogues et qui contient les rouleaux, c'est aussi une boîte, c'est aussi un élément de contenant, mais on oublie toujours de dire que la Théba, c'est aussi un synonyme du mot, de la phrase. Donc le commentaire, ce beau midrash raconte que si les Juifs, Noé a survécu, il a survécu à travers le mot. C'est le mot qui lui a permis de traverser un peu le déluge. Alors, on arrive à des questions fort intéressantes. C'est le statut de Moïse. J'ai dit tout à l'heure comme il était incertain, ce statut. Et pourquoi il est incertain comme ça? Parce que, systématiquement, on a ce balancement entre l'image abrahamique et l'image de Moïse. Abraham, c'est celui qui va avoir la révélation du monothéisme pour un homme, sa lignée, sa famille. Abraham, Isaac, Jacob, sa tribu, si vous voulez, son groupe familial. L'émancipation va concerner une famille. Pour Moïse, c'est l'expérimentation d'une émancipation qui va concerner tout un peuple. Ça, c'est la première différence. Mais la deuxième différence, qui va être tout à fait palpable, conflictuelle, va se produire, et j'en parlais hier soir à propos d'Ézéchiel, lors du retour des exilés de Babylone. Les exilés de Babylone, ce n'est pas l'ensemble du peuple juif. Ce sont des élites, ce sont des prêtres, des aristocrates. D'ailleurs, ils sont déportés à la première défaite, en moins 597. Alors que le reste du peuple sera déporté, une grande partie, ou détruit, en 586, c'est-à-dire 11 ans après, lors de la destruction du temple de Jérusalem. Donc, et puis, la majorité des juifs vont rester sur la terre d'Israël. Et où ils sont mélangés avec les rescapés de la destruction du royaume d'Israël qui a eu lieu 80 ans auparavant. Or, ces deux parties du peuple, les élites sacerdotales et le peuple resté sur place, portent deux traditions. Une des traditions est la tradition du Nord, la tradition héloïste. Les prêtres portent la tradition yahviste, celle du tétragramme. Donc, une des raisons pour lesquelles Moïse semble assez maltraité dans la tradition juive par les rabbins, c'est parce que tout simplement cette problématique vient de la synthèse définitive du texte biblique qui va se faire après le retour de Babylone sous l'égide d'Esdras et de Néhémie. Ça va se faire environ, ça va être fixé autour de 450 avant Jésus-Christ. Donc on s'aperçoit que les problématiques du statut de Moïse sont très intéressantes au plan de l'histoire. Parce que quelque part, son image est altérée par les traditions différentes des gens qui vont faire le canon juif. C'est que le canon juif, il a quatre sources. Il a une source héroïste, la source du Nord, la source yaviste, la tradition du Sud et du Temple, la tradition deutéronomique et sacerdotale. Donc quatre origines pour cette synthèse du canon écrit. Et bien le statut de Moïse pâtit un petit peu de cela. Il n'empêche que, et là j'arrive à notre Moïse en action, qu'est-ce qui va amener cet homme extraordinaire comme action, comme piste un peu d'action? Et d'abord, une chose qui me frappe, c'est la justice. C'est quelqu'un qui est tourmenté par la justice. Dès le départ, quand il va tuer l'Égyptien, quand il va essayer de mettre un terme au combat entre juifs, quand il va être à Midian, et quand il va demander à Pharaon de laisser partir le peuple, c'est l'exigence de justice qui va porter. Et cette vision de justice a transcendé toute la pensée juive, au point que même dans le messianisme juif, qui est tellement confus hein, dans l'eschatologie juive, il y a un élément qui est constant, c'est l'instauration universelle de la justice, entre les juifs et entre les peuples. Il y a une deuxième problématique qui est passionnante, sur laquelle il va intervenir, c'est la légitimité de la violence. Et ça, c'est aussi tout à fait nouveau et tout à fait moderne. Hein. Est-ce qu'il y a une violence acceptable? Et on s'aperçoit que la préoccupation sociale de Moïse, c'est de savoir quand il faut être violent. Eh bien, il dit, il faut être violent quand il s'agit d'appliquer la loi. Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Les juifs sont juifs à cause de la loi. Donc, elle vous autorise. Il est dit également que l'autodéfense est tout à fait légitime. Et que se protéger, ce terme qui consiste à dire « souviens-toi d'Amalek » et qui va transcender l'inconscient juif au sein du temps, puisque nous, on prétend que tous les grands massacres des juifs étaient tous des descendants d'Amalek, y compris Aman à Susque, comme Hitler. Dans la tradition juive, c'est des gens qui représentent l'esprit d'Amalek. Donc, une violence parfois nécessaire. Moïse, législateur, hein, vous savez que Moïse non seulement reçoit la Torah, et j'aime beaucoup vous connaissez pour ceux d'entre vous qui lisent un peu, les maximes des pères, les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot commencent par deux phrases que je trouve essentielles. La première, que je cite souvent, quand je suis en face de rabbins orthodoxes, je leur dis, première phrase des Pirkei Avot, le col d'Israël, Yishrelek l'Olam Haba. Tout Israël a droit au monde futur. Qu'il soit pécheur, qu'il soit bon juif ou pas, nous avons tous droit au monde futur. Nous sommes tous acteurs de la rédemption, quel que soit notre but. Ça, c'est un de mes éléments directs. Mais la deuxième phrase, c'est quoi? C'est Moïse reçut la Torah au Sinaï, la transmise à Josué, celui-ci aux anciens, les anciens aux prophètes, puis aux hommes de la grande assemblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première Torah qui a été détruite a été gravée par Dieu dans le marbre. Mais elle a été brisée. La deuxième Torah a été écrite par Moïse. Et ensuite, Moïse, qui l'a reçue, l'a transmise. C'est-à-dire que c'est l'indication, tout simplement, et l'impératif définitif de l'interprétation. Qu'est-ce qu'il nous donne Moïse? Il dit, bon, je vous donne un texte, mais il n'est pas gravé dans le marbre. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Mais vous aussi, écrivez votre livre. Vous, de la Grande Assemblée, vous, les Juifs, vous avez ce devoir d'interpréter. Mon texte, il est vivant. Et c'est vous qui allez le faire vivre. Donc, Moïse, législateur, c'est pas l'homme qui va, comment dirais-je, déifier le texte. Tout, sauf la déification du texte. D'ailleurs, un très beau midrash que me racontait mon père raconte, c'est pas du tout à cause du Vaudor que Moïse a brisé les premières tables. Il s'est dit, mais Seigneur, s'ils allaient adorer mes bouts de pierre comme ils adorent ce Vaudor, alors j'aurais tout raté. Il n'y a aucun avenir pour le peuple juif s'il n'est pas capable lui-même de lire et d'interpréter, et d'adapter son texte. Donc, c'est Moïse législateur, c'est quelqu'un qui va donner non seulement la loi, mais aussi les clés de l'avenir, qui sont l'interprétation permanente et la jeunesse permanente de ce texte. Moïse, médiateur de l'Alliance. C'est tout à fait évident. C'est Moïse qui va inscrire la loi dans la conscience des gens. Et c'est par le biais, justement, de cette loi orale. Vous savez, Moïse reçoit non seulement la loi écrite, mais la loi orale. C'est la loi orale qui va humaniser le texte divin. Donc, quand on dit que Moïse est un médiateur de l'Alliance, c'est tout simplement parce qu'il dit aux gens, écoutez, vous avez un texte là, un texte béton, mais attention, ce qui est important, c'est le reste, c'est le commentaire. Vous vous souvenez que le commentaire est tellement mobile, tellement adaptable, que le deuxième nom du Talmud, c'est la halakha. Halakha, ça veut dire... Ça vient de là, alors, marcher. C'est un texte en marche. Donc, Moïse, médiateur, donne aux Juifs un texte en marche. Moïse, intercesseur, ça vous le savez, hein, bien évidemment, à chaque instant, il va monter vers Dieu pour défendre vraiment les iniquités du peuple juif. En Égypte, au Vaudor, dans le désert, chaque fois, même quand sa sœur sera frappée de la lèpre, même lors de la révolte de Korach, il va intercéder auprès de Dieu pour qu'il ne détruise pas ce peuple. Hier soir, nous parlions à Chambéry, à Bible Ensemble, d'Ézéchiel, voilà un texte d'Ézéchiel, il les aurait détruits sans Moïse, son élu, qui se tenait dans la brèche face à Dieu pour éviter que sa colère ne les détruise. Je passe rapidement sur Moïse, fondateur du culte et du prêtre. Les prêtres, j'avoue que c'est contestable. Parce que le fondateur de la prêtrise, c'est quand même Aaron. Et je dirais plutôt que Moïse représente la religion des tentes, une religion évolutive, une religion personnelle, une religion de modèle plus réduit et plus adaptable que cette institution que vont être les Lévites et les Kohanim. Chef de guerre, chef politique, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est le Moïse visionnaire et philosophe. Dans un très beau texte, Bernheim parle d'un de ses maîtres, le rabbin Weidman, qui terminait toujours Kippour, les 25 heures du jeûne de Kippour, par une heure d'étude. Et qu'est-ce qu'il étudiait? Il étudiait les lois de pureté et il étudiait les textes sur la naaga, sur la lèpre. La lèpre, pour la tradition juive, c'est pas la maladie, la lèpre. La lèpre, c'est celle de Myriam et d'Aaron, quand ils ont mal parlé de la femme de Moïse. En fin de compte, une idée intéressante dans le personnage de Moïse, c'est cette lutte permanente contre le dévoiement de la parole. Moïse, qui donne la parole au peuple juif, va leur interdire d'en mésuser, exactement comme une des prescriptions les moins comprises du Talmud, qui dit que quelqu'un qui pratique l'effusion de sang, la séphicat d'Amim, n'a pas accès au royaume des cieux, au temps messianique. Séphicat d'Amim, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va égorger quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui fait rougir son prochain en public. C'est-à-dire que c'est tout à fait dans la lignée mosaïque. Moïse demande simplement que la parole est tellement importante, c'est ce qu'elle nous a été donnée pour avancer, que il ne faut pas en mésuser. Myriam, Aaron mésuse de la parole. Lui-même, Moïse, va mésuser un peu de ce qui est donné. Donc, il est normal de parler du contenu. Donc, ça, c'est une piste intéressante. Tout à l'heure, j'ai parlé du refus du texte idole, de cette obligation qui nous est faite de le commenter, ce texte. Et je vous rappelle que quand on parle souvent de Dieu dans le texte biblique, on parle du Dieu d'Isaac, du Dieu de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Pourquoi on ne met pas Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Parce que tout simplement, pour nous juifs, chacun sa Bible, chacun son Dieu. C'est à nous de nous faire notre foi, par l'étude, par le commentaire et par l'étude de la parole. Et Mark Anna Wakenin, dans ce très beau livre qui s'appelle « Livre brûlé », cite Lévinas, et lui-même Lévinas parle des explications de ce mot qui parsème la Bible, « les est mort ». Les est mort, c'est la racine de parler, de dire. Et il dit que ce mot, il a 120 significations. Lui, Lévinas, il en connaît 4. La première, c'est à savoir. Moi, quand j'ai appris la Bible, pour ma bar mitzvah, mon rabbin disait, Ignaz Kahn me disait à savoir. Bon, il y a un texte plus, une façon plus élevée de traduire, c'est en ces termes. Dieu parle à Moïse, les est mort, en ces termes. Mais les significations lévinasiennes sont bien plus intéressantes. Les morts, ça veut dire pour qu'ils en parlent. Et encore plus, pour ne pas dire. C'est-à-dire que le positif et le négatif de la parole sont envisagés également dans ce terme. Donc ça veut dire que le texte biblique est une parole créatrice, et une parole créatrice d'une autre parole, de la parole de l'autre homme. J'en termine bientôt. Une piste aussi intéressante au plan contemporain, c'est de, je l'ai évoqué dans mon introduction, c'est Moïse fait de la Torah un code éthique. La Torah, c'est pas seulement un code religieux, c'est pas seulement un code social, comme on l'a beaucoup dit, c'est aussi un code éthique. C'est un code du rapport à l'autre homme. Si on n'a pas compris qu'on ne parle dans la Torah que de se mettre à la place des autres, on n'a rien compris. Quand vous lisez, je l'ai cité ici même, quand j'ai parlé de l'amour dans la tradition juive, à propos de Lévitique 18-19, « Aime ton prochain comme toi-même », je cite toujours la phrase suivante, « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». C'est-à-dire, je suis son Dieu et je suis ton Dieu. C'est pour ça que Dieu va mettre à sa place. Toute la Bible est dans cette remarque. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place des autres. Le deuxième terme qu'il faut toujours se rappeler, c'est « Souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte ». Cette condition ancienne de l'esclavage nous est rappelée absolument sans arrêt. Il est important de la rappeler maintenant. Et j'aime bien aussi en terminer avec cette introduction qu'il nous fait sur la notion du temps dans la tradition juive. Souvenez-vous des Juifs au désert qui revêtent la viande et les plats qu'ils mangeaient en Égypte. Ils vont recevoir la manne, à recueillir tous les jours, et ceux qui en prenaient deux rations, la manne pourrissait, ils étaient exclus du camp. Et pour Shabbat, ils avaient deux rations de manne. Les Juifs sortent leur tente le matin, et qu'est-ce qu'ils voient, cette nourriture? Et ils disent « Mazé », qu'est-ce que c'est? Ils disent en hébreu. Et Moïse leur dit « Zeman », c'est la manne. Mais Zeman, en hébreu, ça veut dire le temps. Moïse ouvre la notion du temps juif. Souvenez-vous de ce très beau livre d'Abraham, Yeshua, Eshel, qui qualifie les Juifs de bâtisseurs du temps à propos du Shabbat. Les Juifs ne sont pas le peuple de l'espace, de la géographie. Ils sont le peuple du temps. C'est eux qui apprennent à donner du temps au temps, pour citer François Mitterrand. C'est eux qui apprennent à mettre la production à distance le jour du Shabbat pour être enfin des personnes qui humanisent leur monde en donnant à cette création ce temps de repos. Donc réfléchissez bien à Moïse aussi, inventeur d'une mission philosophique très contemporaine qui est cette notion du temps. Tout à l'heure, je vous ai parlé rapidement de l'aniconisme comme fondation de la tradition juive. L'image étant finie, ça ne peut pas nous servir à avancer. C'est la parole qui nous fait avancer. Et j'aimerais terminer sur ces actions de Moïse en citant le problème de cette arche que les Juifs trimballent dans le désert avec eux. Qu'est-ce qu'il y a dans cette arche? il y a des débris des tables de la loi. Par la suite, on va leur voler l'arche. Et lorsque Pompée va visiter le temple de Jérusalem, où est censé se trouver ce qui reste de l'arche, il ne va rien trouver. La tradition juive s'organise autour du vide, du trône vide. Et j'aime bien cette phrase de René Girard, quand on lui demande de définir Dieu, et qui dit « Dieu, c'est un vide en attente ». Il a parfaitement défini la notion de cet espace extraordinaire, cet espace de potentialité qu'est cette notion divine pour la tradition juive. Donc cette notion du trône vide. Et cette arche dont je parlais tout à l'heure, elle est encadrée de deux chérubins qui se font face et qui se regardent. Dieu, il est exactement dans l'entre-deux, de la parole. Alors, j'en viens maintenant à cette constatation que, bon, cette Bible qui nous porte, qui nous inspire, qui nous irrigue, bon, elle n'a pas beaucoup de, gages d'historicité. Hein. Je rappelle toujours aux gens qui me parlent des problèmes de la Palestine, j'en ai écouté, la Bible, c'est pas un cadastre, hein. C'est pas un titre de propriété sur quoi que ce soit. Hein. C'est pas non plus une garantie que le peuple juif est un peuple meilleur que les autres. Mais c'est quand même un texte de progrès et qui propose un rêve universel à une nouvelle humanité. Quelques idées de penseurs juifs contemporains sur justement ce personnage de Moïse. Achadam, c'est son nom de plume, Achadam, ça veut dire le premier du peuple, il s'appelait Asher Ginsberg, il se posait lui-même la question de l'existence même de Moïse. Donc pour lui, c'est pas un stratège militaire, c'est pas un stratège politique, c'est pas un politicien astucieux, mais il est le maître des prophètes, il représente surtout un idéal prophétique pour une vie humaine, dans une exigence de justice. Donc il émet cette idée de l'utopie de la société idéale que porte Moïse. Donc le dieu pour Achadam, le dieu de Moïse, n'est pas tribal, mais il est pour tous les hommes créé à son image. Et si Moïse n'entre pas en terre promise, c'est pas parce qu'il a fauté, c'est parce qu'il est opposé à toute compromission. Il est opposé à toute concession aux réalités triviales. Moïse, pour Achadam, et c'est une piste que je repose, c'est l'homme du rêve. C'est l'homme qui porte effectivement le mécontentement de Dieu sur le présent actuel du peuple juif. Donc Moïse, pour Achadam, est un homme qui pérégrine du passé au futur, car un présent dénué d'idéal n'est pas conforme à la tradition juive. Et ça, c'est une piste de réflexion extrêmement intéressante. Cette espèce de permanent balancement entre le passé et le futur. Mark Hamilton a une très belle phrase, il dit « Souviens-toi de ton futur ». Et c'est tout à fait le paradigme de la condition juive. Pour Freud, et je le cite quand même pour l'anecdote, parce qu'il n'avait aucune culture juive, dans son Moïse et le monothéisme, il identifie le monothéisme juif, bien évidemment, à cette vieille lune du culte d'Akhenaton. Mais il fait beaucoup plus. Il fait beaucoup plus. Il prétend que le meurtre de Moïse, parce que Moïse a été assassiné par les juifs, qui est omniprésent dans l'inconscient prophétique et l'inconscient collectif juif, s'identifie au meurtre du Père. Vous voyez comme c'est simple. Comme péché originaire, et il considère que le monothéisme juif, ce n'est jamais que la religion de la culpabilité et du refoulement. Je crois que... Je vous le cite parce que c'est quand même assez fort de café, quand même. Pour Martin Buber, lui, vous savez, vous connaissez ma passion pour Martin Buber, il accepte, lui, l'historicité de Moïse, mais il distingue fortement, et ça c'est très contemporain, histoire et sagesse. Pour lui, Moïse, c'est pas l'historicisation d'un mythe, mais c'est la mythification de l'histoire. Vous voyez, on revient un peu à la pensée de Vidal-Naquet. Et cette mythification, c'est jamais une déification. Je cite son texte à Buber, parce que je l'ai retenu, il est très intéressant. Il est celui qui révèle son identité propre, leur guide, leur garde avancée, prince du peuple, législateur, porteur d'un merveilleux message. Il agit au niveau de l'histoire et entre les peuples. Il transmet le souci de Dieu. Souci de Dieu, Bernheim, le souci des autres. C'est là qu'il a trouvé. Et l'exigence d'être un peuple saint, juste et loyal, pour Dieu et pour le monde. Pour Buber, Moïse, c'est l'homme qui expérimente Dieu. Pour ma part, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il fait partie de ma famille. Cette figure qui est mythique, ça m'arrange bien qu'il n'y ait pas de trace historique, parce que moi, c'est un être qui est profondément humain. Et moi, le Moïse que je retiens et que je dois partager, c'est le Moïse des échecs. C'est le Moïse des échecs, et bien oui. Voilà un homme qui a des exigences et qui en rabat absolument sans arrêt. Il a un problème que les psychiatres connaissent bien, il a un problème avec l'origine. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, s'il est juif, s'il n'est pas juif. Son père et sa mère disparaissent de l'histoire très vite. Il n'a pas de descendance. Gershom, Eliezer, on ne sait pas. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. On ne connaît même pas sa tombe. Donc même quant à son existence propre, il est dans un échec absolument total. Il a un échec identitaire extraordinaire. Échec face à Dieu. Hein, le Midrash raconte que Moïse, avant de s'engager à sauver les Juifs, pose trois questions à Dieu. La première, c'est « Est-ce que tu seras toujours parmi nous ? Est-ce que la Shekhinah, ta présence, sera parmi nous ?» Dieu dit « Oui, je serai toujours parmi nous. » Deuxième question, « Est-ce que ton alliance est irrévocable ?» Ah oui, mon alliance est irrévocable. Dieu, la troisième question, « Fais-moi connaître tes voies. » Non, dit Dieu. Exactement ce qu'on va retrouver dans le texte d'Isaïe, quand il dit « Parce que mes pensées ne sont pas tes pensées, mes chemins ne seront pas tes chemins. » Donc c'est très très fort. Donc même face à Dieu, et pourtant on dit de Moïse qu'il a parlé face à Dieu. Les rabbins disent même que c'est l'homme qui a vu le maxime de Dieu, c'est-à-dire de dos, le bas de son manteau. Donc c'est pour dire la proximité qu'il avait eu, même lui, même face à Dieu, Moïse est dans l'échec. Face à sa famille, les relations de Moïse, d'Aaron et de Myriam sont détestables, détestables. Et Aaron prend un chemin de plus en plus puissant, au point de fomenter pratiquement un coup d'État contre Moïse, au point d'instaurer contre la vie de Moïse la prêtrise, d'installer un pouvoir, une papauté, quoi, un pouvoir temporel, qui dure encore maintenant. Les descendants d'Aaron, c'est les Kohanim. Ils sont de la tribu de Lévi, et la tribu des prêtres. Donc même face à sa famille, Moïse est dans une espèce d'éconfliction et d'échec. Pour ne pas dire face à son peuple, à qui il va proposer des choses merveilleuses, et chaque fois négocier, en rabattre, pour aboutir à un pis-aller, ce pis-aller l'amenant à cesser son activité au moment où la terre de la promesse arrive. Ce message, cette identité qui est très contemporaine, c'est celle d'un homme qui va d'échec en échec, mais qui délivre quand même un message très contemporain. Il va délivrer le message d'une utopie sociale, d'un monde rêvé. Il va développer quelque chose qui est très moderne, c'est-à-dire une religion du texte, notre religion. C'est-à-dire le logos plus Dieu, la philosophie grecque plus Dieu. Ça m'intéresse beaucoup. Comme le dit très bien Élisée dit, oui, il faut étudier. Oui, il faut parler de Dieu. Mais on est avec, on est contre Dieu, mais on n'est jamais sans Dieu. Et je crois que cette idée de cette religion du texte, il nous l'a donné. Il nous a déjà donné, c'est le plus universel, cette liberté de lire ces textes et cette responsabilité qui est liée à l'élection. Cette liberté qui consiste à accepter cette vie sur terre où Martin Buber parlait de l'absence de Dieu, cette vie effectivement on ne sait pas bien où il est, et d'accepter ce concept d'insécurité radicale que met en évidence Rosenzweig après Buber. Et je dirais que ce qui me plaît chez Moïse, c'est sa modestie, c'est sa solitude, c'est son abandon, c'est sa douleur, et cette permanence du rappel à sa vérité d'homme. Et c'est celle-là qui est exemplaire, parce que c'est en cela qu'il nous ressemble. Et je terminerai en citant quelqu'un qui s'appelle Zuzia. Zuzia est un des rédacteurs du Talmud de Babylone. C'est celui à qui on demandait un jour « Qu'est-ce que c'est qu'un homme ?» et qui répondait, mais c'est très facile, un homme c'est un ma, un homme c'est une question. Un homme, on est homme que si l'on questionne. Donc voilà l'homme que c'était Zuzia. C'était un très très grand maître. Et quand venait l'heure de sa mort, il pleurait absolument sans arrêt. Ses élèves lui disaient, mais maître, vous vous rendez compte qui vous êtes? Écoutez, maître, vous êtes un nouveau Moïse. Et Zuzia dit, mais quand je vais me présenter devant Dieu, il ne va pas me demander si j'ai été Moïse. Il va me demander si j'ai vraiment été zodiaque.
Merci, merci, Albert. C'était brillant, c'était trop rapide. Tu nous as emmenés très loin, dans des sphères complètement différentes, extraordinaires. On aurait besoin peut-être d'avoir ça sous les yeux après, mais on n'aura pas sous les yeux, mais de réentendre. Ça, c'est plus que sûr, parce que c'est d'une richesse incroyable. Alors toi, Albert, est-ce que tu es bien Albert? Oui, je te reconnais, c'est vraiment toi. Maintenant, échec, moi je ne suis pas d'accord avec toi pour l'échec de Moïse. Non, c'est un homme, tu l'as dit après d'ailleurs, qui a fait des choses absolument fantastiques. Alors, qui veut maintenant poser quelques questions à Albert?
Samuel me disait, mais cet homme-là, ce Moïse, qui sort quand même d'une culture, la plus belle culture d'époque, la Sorbonne de l'époque, la science égyptienne, avec tout cet accompagnement de la mort, tous ces textes extraordinaires qui sont les textes liés à la mort chez les voyages chez les Égyptiens, comment est-ce qu'il intègre ça avec cette notion d'immortalité chez les Égyptiens, avec sa mort prochaine d'une part, et avec la problématique ultérieure de la résurrection dans la tradition juive? Voilà, c'est la question qu'il me posait. Alors là, c'est une question qui est pas simple. Tout à l'heure, je te disais, il faut revenir à Maïmonide, au 13 article 2. Voilà. Pour tout vous dire, au début, il y en avait 12. Il n'y en avait pas 13. Le 13e, c'est, je crois, à la résurrection des morts. Et Maïmonide, qui était médecin, lui dit non, moi j'y crois pas du tout, j'y crois pas une seule seconde. Et il a cédé au rabbin du sud de la France, au kabbaliste Abraham de Bosquière, son fils Judas l'Aveugle de Toulouse, et également au rabbin du nord, sous la menace d'une excommunication. On lui dit, si tu ne mets pas ça, non seulement ton texte sera jamais lu, mais tu seras excommunié. Parce que c'est un dogme absolu dans le judaïsme galoutique, le judaïsme eschatologique qui prévoit les temps messianiques, que cette fameuse résurrection des morts à laquelle Maïmonide ne croyait pas plus que ça. Moi, je mettrais volontiers Moïse dans la même catégorie que Maïmonide, c'est-à-dire que pour lui, cette notion de résurrection, elle appartenait à un domaine complètement insondable, improbable, et en tout cas quelque chose qui est difficile à envisager de façon tout à fait pragmatique, et même d'ailleurs de façon tout à fait théologique. Alors hier soir, comme je vous disais tout à l'heure, on a fait notre soirée sur un texte d'Ézéchiel, et je racontais que sur la production d'Ézéchiel, il y a les 24 premiers volumes qu'il a publié concerne la destruction de Jérusalem, la prophétie classique sur le malheur du peuple juif. Les textes de reconstruction, c'est les textes centraux, c'est entre les textes 32 et 35, où il va parler de rédemption, de rétablissement, de messianité, de résurrection. Et le 37e, vous l'avez tous lu, c'est la fameuse vallée des ossements, où il prédit que les chairs vont se reformer sur les os. Mais quand Ézéchiel parle de la résurrection, il ne parle pas de la résurrection au sens où on entend maintenant, il parle tout simplement, c'est une métaphore pour dire que le peuple juif va renaître de cette mort annoncée par les Assyriens. Parce que Ézéchiel est déporté à Babylone, il est un des premiers déportés avec le roi Joachim en 597. Dès le début, il a été déporté. Et ce qu'il prévoit dans la troisième partie de son œuvre, à partir du 40e volume jusqu'au 48e, il prévoit tout simplement le nouveau statut des Juifs après leur retour sur la terre d'Israël. Donc, quelque part, quand on a un prophète comme lui envisage cette résurrection, c'est dans une conception complètement messianique. C'est la métaphore du peuple juif, exactement comme la métaphore du pasteur et de son troupeau qu'on trouve chez Ézéchiel. C'est tout simplement le kibbutz galouyot, c'est-à-dire le rassemblement des exilés, que le Messie fera comme un pasteur pour les ramener sur la terre d'Israël. On est dans une messianité, j'allais dire pré-positionniste, hein. On est dans ce que Claude Duvernois, que j'ai bien connu, appelait le sionisme de Dieu, hein. C'est le rassemblement des exilés sur cette terre. Donc pour répondre à ta question, moi je ne pense pas du tout que, comme pour la plupart d'entre nous, ce problème de la réalisation se pose dans les termes où la plupart des gens se posent. Pour nous, l'idée qu'on a des temps messianiques, c'est qu'il y aura autre chose. Il y aura une abolition de l'ordre naturel. Voilà comment on pourrait dire. Le temps s'abolira, la loi s'abolira, le Shabbat s'abolira, la Torah s'abolira. Tout s'abolira, y compris d'ailleurs les règles qui régissent ce monde. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la résurrection. C'est-à-dire que la mort cessera, parce que tout simplement, c'est une période où les lois naturelles ne fonctionneront plus. Mais quant à la résurrection, j'avoue que j'ai, en tant que médecin, quelques difficultés, hein. Mon papa et ma maman se sont enterrés à Jérusalem pour être les premiers à ressusciter, si tu veux. Je pense que quand ils vont se ressusciter, ils discuteront autant qu'avant, hein. Donc je ne suis pas trop pressé qu'ils ressuscitent. Et quand je fais un enseignement aux enfants et qu'ils me disent, toi qui es docteur, est-ce que tu crois vraiment à cette faribole? Alors moi, je m'en tire toujours par une entourloupe. Je leur dis, écoutez, moi, depuis 1953, depuis Watson et Crick, pour moi, ça ne pose pas de problème. Parce que depuis la découverte de l'ADN, je sais qu'en fin de compte, nous ne mourrons jamais. Vous avez une autre question ?
C'est à demain.
Bien, à travers cette épopée on sent bien, on comprend mieux cette puissance de la parole créatrice. Alors, comment se fait-il? Comment peut-on expliquer son bégaiement? Il y a certainement une interprétation, parce que ça paraît assez paradoxal que ce prophète, qui va libérer la parole, qui va donner du sens à la parole, puisse bégayer.
Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a un très beau midrash, une belle parabole, qui raconte l'histoire de ce bégaiement. Ah, ça marche, oui. De ce bégaiement. On raconte que Moïse, à la cour de Pharaon, était très séduisant, qu'il suscitait énormément de jalousie. Et que les magiciens qui conseillaient Pharaon lui avaient dit, méfie-toi, parce que ce type-là, on ne sait pas très bien d'où il vient, mais en tout cas, il va piquer ta place. Alors, parce qu'il est intéressé par le pouvoir. Donc, on raconte qu'on a mis devant le petit Moïse, qui était petit, qui avait quelques qui commençait à peine à marcher, on a mis un plateau avec des pierres précieuses, juste à côté d'un brasero. Et Moïse s'est précipité vers les pierres précieuses, s'est cassé la figure, et tout simplement a mis la bouche sur le brasero. Donc on raconte qu'il s'est brûlé la langue, et que depuis là, il bégaye. Mais ça lui a sauvé la vie, puisqu'il n'a pas suscité le courroux de Pharaon. Ça, c'est le Midrash qui raconte. Moi, je vais donner l'explication qui est celle du pédiatre. C'est qu'en fin de compte, le bégaiement, nous savons très très bien que, mis à part le bégaiement des gens qui ont de grosses atteintes neurologiques, c'est un problème psychologique, c'est un problème de relation à l'autre, c'est un problème de parole. Or, il y a une constante chez Moïse, c'est son humilité. Il pense qu'il ne pourra pas, qu'il sera empêché de communiquer, qu'il ne sera pas écouté. Or, qu'est-ce qui fait bégayer un enfant qui a le souci de ne pas être écouté, de ne pas être entendu? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, il suffit de cette explication-là. Le bégaiement, il est symbolique. Il est symbolique. Il y a un deuxième élément de réponse, c'est que c'est l'élément dont je te parlais, que cette espèce de conflit entre les traditions yavistes et éloïstes. Je te rappelle ce que je t'ai dit, on pense que Aaron était une image de la tradition éloïste. Donc ce conflit permanent entre deux traditions est là. Donc ça explique pourquoi il y a toujours ce couple qui porte la parole, Moïse et Aaron. Hein. Donc il y a une espèce de duo qui est là, qui va non seulement présenter l'avenir un peu d'organisation juive, mais également les conflits potentiels, et qui sont des conflits très forts qu'on a jusqu'à maintenant. Conflits entre l'universel et le particulier, conflits entre le lieu et le monde, conflits entre les rabbins et leurs ouailles, si tu veux, conflits entre une religion personnelle et une religion collective. On a cette espèce de couple qui est là, qui relève de la métaphore et du symbole. Et l'empêchement de Moïse à communiquer, pour moi aussi, c'est quand même un trait qui me rend très très sympathique. J'avoue que j'aime bien, j'apprécie beaucoup. Ah oui, une histoire, ça se passe dans une école juive à New York, et il y a un rabbin qui dit à ses élèves, maintenant, vous allez dire qui était la maman de Moïse. Il y a un élève qui s'est dit, monsieur le rabbin, je sais qui c'était la fille de Pharaon. Ah, il dit, t'as rien compris. Sa maman, c'était une juive. Non, dit le petit garçon. C'est ce qu'elle raconte à son père quand elle rentre à la maison avec un bébé.
D'autres questions ? Commentaires ?
Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier à nouveau notre ami Albert, parce que comme d'habitude, c'est toujours remarquablement documenté, toujours extrêmement riche, enfin, extrêmement riche et extrêmement profond. Bon, il y a trois points qui m'ont particulièrement intéressé. Tout m'a intéressé, bien sûr, mais il y a trois points qui m'ont résonné particulièrement. La première chose, mais on la retrouve régulièrement chez toi, c'est une invitation à la circonspection. Et ça, c'est très heureux à un moment où on nous dit ce qu'il faut croire. La vérité, elle est là, elle est nulle part ailleurs. Il n'y a jamais la moindre marge d'interprétation. Et toi, tu nous dis, non, c'est pas ça. Et là, tu l'as remarquablement exposé quand tu nous as rappelé que les textes bibliques, notamment pour le Premier Testament, sont le fruit, ont été établis à partir de quatre traditions. Qui parfois, en fait, il y a chacune des traditions a sa propre, s'inscrit dans sa propre perspective. Et tu disais, ça je l'avais jamais entendu, Moïse, il a pâti, en fait, de la confrontation de ces quatre traditions. Mais pour nous, c'est une invitation à faire attention à ceux qui disent, elle est là, la vérité avec le L majuscule. Donc merci pour ce rappel, et avec des mots très forts, parce que tu nous as dit, en fait c'est une invitation à refuser, alors t'as pas employé le mot ce soir, mais tu le dis souvent, et on le retrouve chez Emmanuel Levinas, à refuser toute sacralisation des textes, et ce soir t'as dit toute déification des textes. Donc merci pour ça. Ensuite, deuxième chose, je vais le dire après, je suis terminé par ça. Excusez-moi. Deuxième chose, le lien entre la mémoire et la marche. Ça, mémoire, démarche, marche, c'est le sens de la halara, du mot halara. Et ça a résonné parce que j'avais entendu une émission de Jean-Claude Amezen sur France Inter, qui disait que faire mémoire, j'ai retrouvé ça dans ce que tu nous as dit, faire mémoire, c'est une marche à entreprendre pour se construire, pour se reconstruire, et la dynamique entre mémoire et marche, c'est ce qui permet de rester soi-même en devenant autre. Et là encore, tu nous as réinscrit dans cette dynamique où on retrouve la notion du ridouche. Et puis le dernier point, je trouve que tu as parlé de la notion d'élection, et c'est toujours extrêmement important dans le cas de l'amitié judéo-chrétienne pour nous, non-juifs, pour moi, protestants, qu'on se rappelle de ça. J'aime beaucoup ce qu'a écrit Annick de Souzenel là-dessus, Elle dit, nous sommes redevables, et je m'inscris tout à fait dans ce qu'elle dit, nous sommes redevables au peuple juif d'avoir accepté la charge, la responsabilité de l'élection, parce qu'en fait c'est ça l'élection, c'est une charge, une responsabilité à assumer, parce que la vocation d'élection du peuple d'Israël est d'être réceptacle, accueillant la bénédiction divine, pour quoi faire ? Non pas pour, pas pour les garder, mais en vue d'en communiquer le désir et le goût à toutes les familles de la terre. Et là, on retrouve un lien entre le particularisme et l'universalisme. Merci infiniment.
Oui, bien, ça, là, tu me flattes énormément, je t'en remercie, mais c'est très très solennel, quoi. Alors, est-ce que tu sais ce que disait Tristan Bernard à Drancy ? Tristan Bernard, le grand humoriste, était juif, malheureusement pour lui, et il est emprisonné, et il en est mort, le malheureux, et il disait, aujourd'hui, le peuple juif, le peuple élu est en ballotage.
D'autres commentaires, réflexions, questions ?
Merci. Moi, comment vous avez dit, on ne connaît pas sa tombe. Quand on visite la Jordanie, on nous présente, au monde est beau, le lieu où Moïse serait enterré. Qu'en pensez-vous ?
Moi j'admets que cette mémoire-là appartient aux gens qui habitent ce coin, c'est plutôt une excellente chose, c'est bien pour nous, c'est bien pour eux. Moi je crois que ça ôte quelque chose au personnage. Moi j'aime bien ce personnage qui meurt seul dans un coin ignoré, parce que justement on n'échappe pas à ça. Les prophètes du juif n'échappent jamais à leur condition humaine. C'est pour ça qu'il y a toute une galerie de prophètes, on en parlait hier soir à propos d'Ézéchiel. C'est quand même des drôles de personnages, hein. Vous savez, ils sont quand même un peu spéciaux, les types, hein. De Jonas à Ézéchiel, à Jérémie, à Isaïe, c'est quand même des gens qui ne sont pas fréquentables, hein. Ils ont tous des mœurs un peu curieuses, ils sont dérangeants, ils n'échappent pas à leurs conditions humaines. Mais moi, j'aime bien que Moïse n'y échappe pas. Alors, pourquoi est-ce que je ne rejette pas un peu cette chose-là ? Parce que on a parfois des surprises. Par exemple, je viens de citer l'histoire de Jonas et de Ninive. Eh bien, à la fin du siècle, du 19e, dans un village sous un village qui s'appelle le village de Jonas en arabe. Et bien, on a tout simplement trouvé la muraille de Ninive, 7 km de muraille et des tablettes. Je veux dire que quelque part, c'est la première fois qu'on avait une historicité prouvée d'un texte biblique. On pouvait le dater, effectivement. Donc, ça correspondait à une histoire vraie. Peut-être pas forcément de Jonas Walt Disney, hein, la baleine et tout ça, mais au moins que cette ville, ce lieu, cette cité, cette civilisation ait existé, c'est sympathique, à un endroit que les Arabes avaient nommé le village de Jonas. Donc, que les gens du coin disent c'est le lieu où vous étiez enterré, bon, on sait à peu près d'où il a observé la terre de Canaan. On ne sait pas très bien où il est. À titre personnel, j'aime autant. J'aime autant qu'on ne sache pas trop où on l'a mis. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, le questionnement sur l'historicité, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Hein. Au fond, même si tout ceci n'est qu'un ramassis de belles légendes, le fond de vérité qu'elles portent et la façon dont elles vont irriguer la conscience juive depuis 40 siècles, ça c'est quelque chose qui m'interpelle de façon très très forte. Et surtout ce qu'elles portent, c'est-à-dire en fin de compte, selon le très beau mot de Gilles Bernheim, une éthique en marche, qui nous fait tous vivre. Parce qu'en fin de compte, on a beau vivre une société laïque, les lois de la laïcité républicaine, elles sont adossées au premier et au deuxième livre. Il n'y a pas photo. Hein, quand on vous raconte qu'il ne faut pas mettre mention de la religion dans la future constitution européenne, c'est une hypocrisie la plus totale. C'est l'hypocrisie la plus totale. Hein, on est adossé à nos anciens et à ses valeurs. Parce que ce code qui a été mis en forme par Moïse et par le peuple juif fonctionne toujours. Il est toujours là. Même si, ma foi, on ne l'applique pas trop bien, quoi. Hein, même s'il nous tombe un peu des mains, quoi.
Et moi aussi, je suis allée au Mont Nebo en Jordanie, on ne dit pas, on ne voit pas la tombe de Moïse. On dit qu'il est mort au Mont Nebo. Et en haut, il y a le caducée, le bâton en bronze avec un serpent autour. Hein? Mais il y a pas, on ne voit pas la tombe, il n'y a pas de tombe. On nous dit qu'il est mort au Mont Nebo, c'est tout. On ne visite pas la tombe du Mont Nebo. Ce n'est pas la tombe des patriarches, elle est bon.
Pour ne pas faire tout ce que j'ai pu montrer, je pense qu'il est vraiment mort d'ennui et de fatigue.
Voilà la problématique à Hébron, c'est peut-être pour cela aussi qu'il ne fallait pas qu'il y ait une tombe. Il y a un problème après qui risque d'être dans l'idolâtrie, et si ce personnage aussi finalement extraordinaire, donc on cesse de parler, même s'il est peu nommé dans la Torah, il est sûr que cette loi qui nous a donné liberté, égalité, fraternité, et tout ce qui tourne autour, et plus les lois les juridiques, enfin tout ce que tu as pu nous dire de lui, c'est de dire, on est dans la parole, mais que finalement le personnage, on ne va pas en faire une idole. Et ça c'est extraordinaire, on est dans la parole. On n'est pas dans l'image et on n'est pas dans le corps, mais on est dans la parole, mais une parole qui s'incarne quand même. Hein. On doit vivre de ça.
Alors, étonnamment, je vais me permettre une question un petit peu périphérique, hein, un peu hors sujet. Par rapport à l'histoire récente de la modernité de la nation égyptienne, que depuis à peu près un siècle, il y a toute une épopée pour cette émancipation de l'Égypte. De l'Égypte d'aujourd'hui, quel est le regard des intellectuels, des écrivains égyptiens sur cette histoire de Moïse, sur cette sortie d'Égypte? Quelle serait, Bercy, tu as quelques idées sur la réaction et le ressentiment des Égyptiens d'aujourd'hui par rapport à tous ces récits, parce que ça doit les toucher certainement.
Moi, j'ai pas d'informateur au sein de la société égyptienne, mais je peux très très bien imaginer la place que ça occupe. D'abord, il faut savoir que la seule structure qui perdure après cette phase de dictature, ce sont les frères musulmans. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une imprégnation de la société égyptienne, et on le voit très très bien, même des syndicats d'avocats, de médecins, d'université, par une forme d'islam relativement moderne, mais authentiquement fondamentaliste, quoi. Hein, ça, c'est, on ne peut pas nier cette histoire-là. Dans cette perspective-là, je l'ai dit tout à l'heure, l'image de Moïse est une image forte, puisqu'elle est intégrée, comme Jésus d'ailleurs, à la tradition coranique, mais le statut même de l'histoire juive récente, il est dynamité par la notion de divinité. C'est-à-dire que pour les musulmans, chrétiens et juifs sont des peuples du livre, mais ce sont des gens qui n'ont pas reconnu Mahomet, et ce sont des gens qui doivent être soumis, tout simplement. C'est-à-dire que la notion, quel que soit le niveau de progression intellectuelle de la société égyptienne, c'est une société musulmane. Comme toute société musulmane, elle a toujours placé les juifs dans une situation de soumission. Il est vrai que les persécutions physiques des juifs ont été plus rares dans la société. Non, elles ont existé, hein. puisque dans le Coran, on raconte bien comment Mahomet a fait décapiter les membres de deux tribus juives, les Coréchites et je ne sais plus qui d'autre, qui s'opposaient à lui. Et de même, les grandes persécutions des Almohades au Maroc et en Espagne ont été des persécutions antisémites comparables à celles des nazis. Hein. Mais il n'empêche que, par rapport à l'Europe chrétienne, on peut dire que la situation des Juifs en monde musulman était plutôt privilégiée. Il n'empêche que, dans le panthéon, dans l'imaginaire des pays musulmans, les Juifs doivent être soumis. Et une des sources des problématiques actuelles, c'est la forme d'émancipation politique que revêt l'État d'Israël, qui est proprement inadmissible pour un musulman bontain, quoi. Il faut le reconnaître, hein, c'est une réalité. Hein, même si la plupart d'entre eux s'accommoderont de l'existence politique de l'État juif au Moyen-Orient, on ne peut pas sous-estimer cette notion, qui est une notion vraiment complètement intégrée dans l'imaginaire musulman, que chrétiens et juifs sont doivent être des êtres soumis. Actuellement, d'ailleurs, il faut quand même bien comprendre que les communautés juives qui vivaient dans les pays arabes depuis des millénaires ont totalement disparu. Hein. Tu sais, on parle toujours, et on a raison d'en parler, des 730 000 réfugiés palestiniens qui ont quitté la Palestine en 1948. On oublie de parler des 880 000 juifs qui ont quitté les pays arabes en laissant tout, en abandonnant tout. Donc, je ne dis pas qu'il faut mettre en balance des réfugiés d'un côté et de l'autre. Je dis simplement que leur situation a cessé d'être confortable avec la création de l'État d'Israël, puisque d'un côté comme de l'autre, il y a eu ce que j'appellerais une épuration ethnique. Hein, ça, c'est tout à fait réel, ça, il ne faut pas méconnaître. Donc quand tu me dis, est-ce que la nouvelle dimension presque démocratique du printemps arabe va permettre un regard apaisé sur la tradition juive, moi je dis que tant qu'il n'y aura pas d'aggiornamento intellectuel des oulémas et des universitaires musulmans quant aux autres religions, ça ne marchera pas. Regarde d'ailleurs, pour ce qui te concerne, le sort épouvantable et l'avenir inquiétant qui est réservé aux chrétiens en Irak, en Égypte, en Syrie. Hein. Pourquoi est-ce que les chrétiens syriens soutiennent le président Assad? Parce qu'ils savent très bien que les Alaouites sont une minorité et que si celle-ci n'est plus au pouvoir, toutes les minorités seront persécutées en Syrie. Et que la Syrie sera mise à feu et à sang et que la minorité chrétienne, elle fera comme au Liban, comme pour les Coptes, comme pour les Syriaques, comme pour les Chaldéens, ben elle partira ou elle sera exterminée. On est dans cet esprit-là actuellement. Donc derrière ce printemps arabe, il y a des inquiétudes extrêmement fortes qui sont liées au fait que les dictatures d'origine militaire et nationaliste qui ont dominé le monde arabe n'ont laissé subsister en face d'elles que les frères musulmans. C'est-à-dire exactement comme en Iran, où le Shah avait détruit tous les partis démocratiques, et on s'est retrouvé avec des partis religieux extrêmement intolérants, surtout, il risque de se produire en Syrie ce qui se produit en Irak, et ce qui s'est produit en Iran avec les Baha'i, c'est une persécution forcenée par une idéologie musulmane dominante, qui n'est pas celle de tous les musulmans. Moi, sur nos amis musulmans que nous côtoyons, aux enfants d'Abraham sont tout à fait évolués et tout à fait reconnaissants des liens, mais globalement, dans l'inconscient collectif musulman, nous sommes, toi et moi, des ennemis. C'est-à-dire, nous n'avons pas reconnu Mahomet, donc on nous protège à la condition que sur l'escalier un peu de la reconnaissance, on soit quand même sur la marche la plus basse. Ok ? Toi, je suis assez lucide. Je ne suis pas haineux, mais je suis lucide.
Aux réflexions. C'est simplement un témoignage que je peux faire. J'étais au Liban début mars. Je peux vous dire, nous étions logés dans un couvent tenu par des sœurs maronites donc un couvent de sœurs âgées, et la qui faisait en même temps hôtellerie. La mère supérieure avait fait ses études en France, parlait couramment français, comme beaucoup de Libanais à Beyrouth et un peu partout. Au sud du Liban, ils parlent plus anglais que français. Mais ils avaient une crainte absurde du Hezbollah et des musulmans. Ça, c'était sûr, hein. Elle nous a parlé, la mère était venue nous parler le soir au repas. Tous les soirs, on mangeait donc dans ce monastère. Elle était très bien reçue, protestant, et elle savait que j'étais protestant, bien sûr. Il y avait un pasteur qui nous conduisait. Mais ils avaient peur des musulmans et des fanatiques musulmans, pas l'islam ordinaire. Et de Hezbollah. Ils avaient peur que Hezbollah prenne le pouvoir. Et quand. Et voilà, c'est ça. Y a-t-il encore des questions concernant Moïse? Rappelez-nous, Moïse.
Belle anticipation, parce que je vais vous parler de Moïse Rabbeinu. Je voudrais qu'on revienne effectivement sur la place de Moïse, non plus dans la Bible, mais dans la tradition rabbinique, parce que je trouve assez paradoxal de présenter Moïse comme celui qui va permettre son interprétation, le passage de la parole, etc. Alors que, finalement, dans les discussions talmudiques, lorsque un rabbin veut clouer le bec à son interlocuteur, donc lorsqu'il n'interprète plus, mais qu'il est dans la prise de pouvoir, il va dire « Alaha le Moshe Mitinaï ». Ceci est une loi donnée à Moïse au Sinaï. Et donc, les seules fois dans le Talmud où on renvoie explicitement à la figure de Moïse, c'est précisément lorsqu'on arrête d'interpréter.
Le discours.
C'est une excellente remarque, mais qui reflète également un paradoxe. C'est-à-dire que dans toute la littérature, médiévale et rabbinique récente, l'image de Moïse, elle sera plutôt diminuée. Par contre, lors des discussions, lors du pilpoul, effectivement, il sert de butoir. Mais est-ce que parce qu'on se sert de Moïse, qu'on l'aligne comme butoir, ça doit arrêter la marloquette, la discussion? Pas pour moi. Je veux dire que moi je vois dans Moïse quelqu'un qui nous a dit, dès la donne de la deuxième Torah, c'est moi qui ai écrit. Et qui je vous transmets ceci. Donc le mécanisme de transmission et d'écriture humaine, et ce qu'on sait maintenant de l'historicité du canon, des rédactions du canon écrit plutôt entre 450, moins 450 et moins 480, le canon oral entre le 2e et le 9e siècle, on sait quand même tout à fait que tout ceci, y compris ce que tu évoques, a été compilé. C'est-à-dire que c'est pas la parole de Moïse, c'est la parole de Moïse telle qu'elle a été transmise par les rabbins. Donc on se heurte à ce problème qui, à mon sens, est tout à fait figuré dans le couple Aaron-Moïse, religion individuelle, démarche individuelle, religion des prêtres, institution, et puis qui recouvre un débat entre le particulier et l'universel. C'est-à-dire que c'est un débat qui est constant dans la tradition juive. Donc c'est pas parce que les rabbins arrêtent en citant Moïse que les choses doivent s'arrêter. Je vois, parce que moi j'ai participé moi-même à des études de ce genre. Et c'est une façon d'interrompre la discussion et de ne pas admettre, effectivement, quand tu parles de prise de pouvoir, tu as absolument raison. Ça, je participe à la même colère que toi sur cette absence d'humilité, couplée souvent avec une grande science. D'ailleurs, parce que les gens qui font ça sont des gens qui, par ailleurs, sont très savants, mais il y a de telles, une telle tentation. Le savoir sécrète ses propres tentations de prise de pouvoir et de toute puissance. Qu'effectivement, on peut avoir ce type de réaction. Mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer à discuter, à poser des questions. Comme le Talmud le dit, le savoir ne s'acquiert pas, le savoir se conquiert. C'est à nous de nous battre pour effectivement lire ce texte avec nos lunettes d'aujourd'hui, dans ce qui nous concerne, parce que tout ça nous concerne. On ne peut pas s'arrêter en disant, tu m'avais posé la même question lors d'une conférence à propos du Hoc, à propos des lois inexplicables, mais qui sont lois, et à laquelle on n'a pas trouvé d'explication. Moi, je trouve qu'il faut continuer à chercher des explications, pas forcément sur sur la justification de ces lois, mais leur mise en situation historique. La mise en situation du débat intellectuel permet souvent de comprendre pourquoi ça bloque. Parce que quelque part, qu'un exégète de la Bible du XIVe siècle ou XIIIe siècle au Portugal énonce une vérité comme celle de Moïse, c'est tout simplement parce qu'il pose une problématique qui le concerne lui, au XIIIe siècle au Portugal. Quand tu remets en situation cette problématique, tu penses tout à fait différemment. C'est qu'en fin de compte, toi tu vas chercher des solutions à des problèmes contemporains, bon, l'opinion du gars au XIIIe siècle au Portugal, au fond, il a trouvé sa solution pour son problème, mais le problème n'est plus le même, et les solutions sont absolument inapplicables. Moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut adopter les choses. Mais toujours croire que nous avons cette nécessité. Je citais hier à propos d'Ézéchiel. Ézéchiel, dans ses provocations extraordinaires, Ézéchiel, c'était quand même presque le Cone Bendit de l'époque, hein, c'était terrible. Pour démontrer aux gens comment il fallait lire le texte, il le mangeait. C'est-à-dire qu'il avait écrit des bénédictions sur des bouts de papier et il les a ingérés. Il a dit aux gens, voilà comment il faut lire la Torah. Il faut cela. Il faut s'approprier en la mangeant. Il faut la manger. Et c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. On voit ces provocations, mais qui sont dialectiques, hein, c'est pour montrer aux gens ce qu'il fallait faire. Et je crois que c'est ça qu'il s'agit.
Et nous finissons là-dessus ou il y a d'autres questions? Peut-être Jean-Claude.
J'ai une question qui n'est pas une question. Alors, je voudrais savoir si c'est parce qu'on a présenté des pierres précieuses à Moïse quand il était petit qu'il y a autant de juifs dans la joaillerie.
On te reconnaît là, Jean-Claude, c'est tout à fait ça. Je te donne pas le micro.
C'est une question qui est très intéressante. C'est très intéressant comme question, parce qu'au-delà de l'anecdote qui effectivement montre que les diamantaires, les grands centres de taille de diamants sont à Tel Aviv, que les grandes bourses du diamant à New York, à Anvers, sont vraiment très peuplées de juifs, et que malheureusement une grande partie des exploitants de diamants en Afrique du Sud est entre les mains juives, ce qui est déplorable, dans des conditions extrêmes, c'est une remarque qui est tout à fait évidente. Alors, l'explication, elle n'est pas liée à Moïse du tout. Elle est tout simplement liée à l'irruption d'un antisémitisme d'église actif dans l'Europe au Xe siècle, début des croisades. Début des croisades, en même temps que les croisés partent libérer la Terre Sainte, ils font la main sur les communautés juives qui rencontrent, bien évidemment, une vague de massacres dans la vallée du Rhin, où des vieilles communautés qui ont des centaines d'années sont détruites, les gens sont brûlés, et en même temps, toute une série de lois sont imposées par l'Église aux princes chrétiens européens. Et dans ces lois, il y a l'interdiction pour les Juifs de posséder la terre. Or, les Juifs, à cette époque-là, sont tous agriculteurs. Et éleveurs. Souviens-toi, Rachid de Troyes, qui est vigneron, et exégète. Je veux dire, c'est ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce qui se passe? La majorité des Juifs d'Europe vendent leurs terres. Donc, ils se trouvent en présence de l'essentiel du numéraire qui circule en Europe à cette époque-là. Ils sont effectivement devenus les propriétaires de la monnaie. Or, en même temps, les guildes leur sont fermées. Les métiers leur sont entièrement fermés. Ils ne peuvent plus exercer aucun métier. Et qu'est-ce qui reste aux Juifs pratiquement de l'an 1000 jusque dans les quelques centaines d'années qui suivent, jusqu'à leurs expulsions diverses, de France, de Savoie, d'Allemagne, d'Angleterre, et il reste de métiers. C'est les métiers qui sont liés à, au prêt d'argent, puisqu'ils disposent du numéraire, et qu'ils ils ont en plus un élément fiduciaire, c'est-à-dire qu'ils ont tellement pris l'habitude de racheter dans d'autres pays leurs frères rançonnés, que l'argent circule d'un pays à l'autre. Non seulement ils ont l'argent, mais ils le font circuler sur des sociétés fiduciaires. Donc on dirait qu'avant les Lombards, avant les Florentins, on a un système bancaire moderne qui existe, puisque ils vont faire ils vont faire tout simplement du prêt pour acheter une charrue, pour le seigneur, pour leur vaisselle. Donc ils vont absolument faire du prêt. Dans le cadre de ces prêts, il y a des gages. Et les gages, le plus souvent, c'est de la vaisselle d'or et c'est des pierres précieuses. Donc, ipso facto, ils deviennent fripiers, puisqu'on leur donne en gage des vêtements. Ils deviennent orfèvres, puisqu'on leur donne des pierres en garantie de leurs emprunts. Donc, quelque part, tout ceci est vraiment lié à un changement de leur statut économique dans l'Europe de l'époque. Et ils deviennent souvent incontournables, puisque l'argent passe par leurs mains, parce que tout simplement, une économie a besoin d'argent. Et les princes, souvent, les rançonnent, les imposent, mais ont besoin quand même de se faire prêter un petit peu d'argent. Donc moi, j'ai bien compris ce mécanisme quand j'ai écrit l'histoire des Juifs de Savoie, parce que c'est très intéressant de voir que les Juifs de Savoie sont attirés de France en Savoie pour des motifs financiers, parce que l'État savoyard se développe, donc il a besoin de moyens financiers, et qui sont rejetés de Savoie au début du XVe siècle, tout simplement parce qu'il y a une crise économique extrêmement importante en Savoie et qu'on n'a plus besoin d'eux. Donc on renvoie et les créanciers et la dette, on les expulse. Donc je veux dire que toute cette histoire, elle est largement motivée par des circonstances économiques. Et cette présence entre les mains juives du numéraire, qui était lié à la vente de leurs exploitations agricoles, de leurs bestiaux, de leur maison dans la campagne, les amène à devenir les banquiers de l'Europe, banquiers au petit pied, hein. C'est-à-dire qu'ils vont faire le CTLM, hein, ils vont prêter aux voisins, ils vont prêter à ceci et à cela. Hein, ta question, c'est une question extrêmement intéressante, c'est comment les gens adoptent ces métiers-là. Ben, il leur restait que ça et la médecine, en fin de compte. Et c'était une époque où j'ai fait le calcul, 35% des médecins de Savoie étaient juifs. En France, c'était 44-45% des médecins qui étaient juifs. Tout simplement parce que la Bible est très riche de prescriptions d'hygiène, parce que le Talmud dit, dans une ville où il n'y a pas de médecin, tu t'installeras pas pour un juif. Donc il y a cette condition d'avoir une synagogue et un médecin. Parce que l'habitude de... Vous savez ce qui a sauvé les juifs de la peste noire et ce qui les a rendus suspects aux yeux des chrétiens, c'est le Netilat Yadayim, c'est le fait que toute la journée, on nous dit la sur les mains. Toute la journée, on se lave les mains et on se baigne, les femmes se baignent tout le temps, pratiquement avant les rapports, après les rapports, avant le Shabbat. Je veux dire que cette notion même de porter des vêtements propres le jour du Shabbat, de se laver les mains 5 ou 6 fois par jour, a mis les juifs à l'abri de la peste noire et c'est les armes suspects. Parce qu'on dit, eux, ils sont pas malades, pourquoi ils sont pas malades? C'est eux qui nous apportent la peste. Voilà. Pour répondre, c'est une question très intéressante que tu as posée.
En fait, la question est précieuse. Albert, je pense simplement à une intervention récente de Gilles Bernheim qui disait que le dialogue interreligieux est en lui-même déjà un acte religieux. Et je me demande si... On ne pourrait pas dire aussi que parce qu'on lutte avec Dieu, un peu comme Jacob qui a lutté, après il boitait. Hein, parce qu'au fond, ça nous transporte, ça nous déplace et ça nous rend un tout petit peu moins sûr de nous. Je pense que c'est ce que vous disiez, hein, on va pour les uns tout arrêter parce qu'il y a Moïse, d'autres parce qu'il y a les dogmes, d'autres parce qu'il y a le Coran. Non, tout simplement, cette rencontre, moi je trouve ça quand même très très grand à cause de ça. Parce que tout simplement... on a un tout petit peu moins sur nous.
j'ai rien à rajouter. Hein. Écoute, hein. De toute façon, moi j'ai investi dans les deux côtés, parce que je ne m'appelle pas Albert, comme elle t'a dit, je m'appelle Abraham Yoshua, car je m'appelle Abraham et Jésus.
Félicitations. Alors je crois que là on peut terminer, parce que c'était bon. Abraham Yoshua. Merci, merci Albert. Et comme tu habites loin, j'ai des annonces à faire, mais si tu veux quitter la salle, tu le peux. C'est bon.
Elles sont courtes, mais elles sont presque identiques à la dernière fois.